enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ça fait du bien de chanter et de louer Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, lorsque nous louons le Seigneur, nos louanges montent vers lui. Et lorsque nos louanges montent vers lui, ses bénédictions et nos besoins descendent vers nous. Hallelujah! C'est pourquoi nous avons besoin de le louer, n'est-ce pas? Et que notre bouche soit toujours pleine de ses louanges. Est-ce qu'il est l'objet de vos louanges? Est-ce qu'il est l'objet de votre amour? Est-ce que vous l'aimez cet après-midi? Amen! Gloire à Dieu! Cet après-midi, j'aimerais vous parler plutôt de choses pratiques. Amen. Et donc, avant de vous parler de différentes choses pratiques, et puis j'aimerais donc Aurélie puisse vous parler, et puis Lydie aussi, prendre quelques instants. J'aimerais vous rappeler que c'est important d'avoir une Bible, et que vous devez avoir une Bible, et que cette Bible, elle n'est pas faite pour être dans un placard ou sur un tiroir. Elle n'est pas faite pour être simplement jolie. Vous devez la lire. Femme, lisez la parole de Dieu. Amen. Et il y a une Bible, une belle Bible, une grande Bible, avec des références, avec toute espèce de choses pour l'étudier. Et soyez des femmes érudites dans le nom de Jésus. Amen. Connaissez la parole de Dieu. Et puis, nourrissez-vous aussi de livres qui vous enseignent des choses à propos de la parole de Dieu. Et bien sûr que vous connaissez ce livre. J'espère que certaines d'entre vous l'ont déjà lu. Pour celles qui ne l'ont pas lu, je le rappelle encore et encore, ce livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques mois simplement, de Paula White, qui s'appelle « Traitez le problème, vous ne pouvez pas conquérir ce que vous refusez de confronter ». C'est un excellent livre qui parle de 10 femmes de la Bible, qui les décortique, qui les met, qui les déshabille de façon scripturaire, n'est-ce pas, mais qui vous montre ces 10 femmes, leurs points faibles, leurs faiblesses et aussi leurs forces. Et comment elles ont vaincu, et comment elles se sont appropriées les choses qui ne devaient pas leur arriver. Je pense aux filles de Zélophate, et puis d'autres aussi, donc qui ont eu leur héritage. Il y a ces 10 femmes, donc, qui sont développées dans ces livres, qui sont vraiment puissantes. Ruth, une personne avec un passé comme le mien ne peut pas réussir. Léa, si seulement je pouvais rencontrer le prince charmant qui m'aimera. Rab, qu'est-ce que tu entends par « je dois changer ma vie » Dorcas, tout le monde veut toujours plus de moi. Gomer, vous ne savez pas à quel point j'ai été blessée. Anne, je ne peux plus supporter cette femme. Hello, vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Pénina. Marie de Magdala, mon nom c'est de la boue et ce sera toujours. La femme tsunamite, il ne passera pas loin de moi. Alléluia. Quoi d'autre encore? Les filles de Tselophade, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me déposséder. Vous connaissez ces filles-là, hein? Vous connaissez cette histoire dans la Bible? Esther, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et puis plein d'autres choses. Amen. Donc soyez bénis par la parole de Dieu. Vous qui avez besoin de réponses dans un mariage, par exemple, 6 mensonges que le diable utilise pour détruire les mariages. Ici, nous n'acceptons pas que les mariages soient détruits dans le nom de Jésus. Nous croyons que les mariages doivent être bâtis et construits et que la parole de Dieu peut changer les choses. Et puis, pour les futures mamans qui ont besoin d'un coup de pouce du Seigneur, naissance surnaturelle, faites l'expérience des promesses de Dieu de la conception à l'accouchement. Amen. Parfois, il y a besoin, et dans ce monde, il y a besoin de mettre notre foi en action parce que la pollution et le monde dans lequel on vit n'est pas sain et n'est pas sain pour nos corps. Et il semble que la stérilité fasse rage et souvent la fertilité est en danger, et donc on a besoin de mettre notre confiance en Dieu et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc ça, c'est un excellent booster de votre foi qui peut vous faire du bien. Est-ce que vous savez ici, et je suis sûre que vous le savez, qu'il y a donc 2 réunions pour les femmes qui ont commencé il n'y a pas très longtemps? Une première réunion qui s'appelle la réunion des femmes célibataires. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires ici? Hello. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires ici? Est-ce qu'il y a des mères célibataires ici? Amen. Donc ce sont des réunions qui, parallèlement aux réunions habituelles des femmes, sont des réunions pratiques qui sont là pour vous bénir, pour vous aider, pour vous encourager, par des personnes aussi qui ont un cheminement dans leur vie et qui ne parlent pas de choses qu'elles ne connaissent pas, tant qu'à faire. Et donc ils peuvent vraiment vous bénir et nous vous encourageons à faire partie de ces réunions quand elles sont là. Elles se tiennent une fois tous les deux mois. Successivement. Et donc, nous avons Lydie qui s'occupe et qui enseigne dans la réunion donc des femmes célibataires, merci. Et nous avons Aurélie qui enseigne au niveau de la réunion des mères célibataires. Et donc, j'aimerais qu'elles viennent. On peut éventuellement les encourager. Et j'aimerais qu'elles prennent quelques instants l'une et l'autre, pour vous dire pourquoi ce sont des réunions importantes, comment elles peuvent vous bénir, et qu'elles vous disent en quelques mots donc ce qu'elles ont sur leur cœur. Alléluia ! Qui est-ce qui commence ? La plus courageuse ?
Amen. Donc, c'est pour les mères célibataires. Oui, les mères célibataires. Les personnes qui ont été soit divorcées ou veuves, vivant seules avec leurs enfants. Moi, j'ai été mariée, divorcée, et si je peux, entre guillemets, peut-être, je peux le dire, mais je ne peux pas le dire, ma copine me dit souvent de ne pas le dire. Mon mari est décédé, enfin, mon ex est décédé. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, donc ces réunions sont formidables. Normalement, ce n'est pas moi qui devais le dire, mais les personnes qui y participent, c'est eux qui devaient donner ces témoignages, si ça leur plaisait ou pas. Mais moi, je sais que des fois, j'ai des témoignages de certaines femmes qui me disent « Ah, Aurélie, j'ai reçu ce que je suis venue ce matin. » Donc, je suis venue chercher ce matin. Donc, j'encourage aux femmes, aux mères célibataires d'assister à ces réunions. Parce que ce sont des réunions vraiment formidables. Je ne prends pas le micro tout le temps. Je laisse aux personnes qui sont avec moi d'apporter leurs témoignages, ce qu'elles vivent, ce qu'elles... Enfin, c'est une communion entre des sœurs et on se partage, nos ex-souffrances et nos améliorations présentes. Et donc, vraiment, ce sont des bonnes réunions. On prie ensemble, on se tient la main. Et donc, je le fais parce que j'ai eu l'expérience. Et ces personnes aussi auront leur propre expérience, pourront aussi partager ces moments avec d'autres personnes. Donc, ce sont des réunions formidables. Je vous encourage. Et puis, n'ayez pas honte du célibat parce que il y a des femmes qui sont dans l'église, qui vivent les mêmes situations que nous. On dirait qu'elles ont honte de venir assister à ces réunions. Il n'y a pas la honte à voir parce qu'on ne choisit pas notre destinée. Donc, les choses nous arrivent dans notre vie. C'est à nous de les embrasser et de faire avec et comment triompher à des situations qui nous arrivent comme ça dans la vie. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je me trouverais avec 4 enfants à élever toute seule. Donc, c'est la vie. Donc, je vous encourage à venir à ces réunions parce que c'est vraiment formidable. On partage de bons moments. Il y a des bons moments de réflexion, de bons moments de partage, de bons moments de prédication aussi. Il y a on prêche la restauration, on prêche comment élever nos enfants, comment suivre nos enfants, leur scolarité, comment vivre une vie de femme, assumer sa responsabilité en tant que mère, en tant que sœur, en tant que... Parce que nos... Enfin, moi, je parlerai de moi. Mes enfants, j'ai eu mes enfants, on a quelques années de différence. Donc, j'ai été mère, père et grande sœur en même temps. Donc, on peut jouer ces trois rôles-là ensemble. Donc, je vous encourage franchement de venir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà.
Alléluia. C'est pareil pour moi aussi. J'aimerais encourager les femmes célibataires vraiment à venir parce que j'ai comme l'impression que la plupart, elles ont honte et croient que c'est une étiquette alors que c'est pas vrai. C'est tellement excitant d'être célibataire parce qu'on a tellement de choses à faire pour le... Et c'est vrai ce que je vous dis. Parce que quand on réalise vraiment ce que le Seigneur veut pour nous, en fait, c'est chercher la volonté et la destinée de Dieu pour notre vie. Et quand on l'a, on sait qu'on est libre avec le Seigneur. Et une chose est claire, c'est quand on sera marié, on ne pourra plus faire ces choses qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut vraiment en profiter à fond la caisse et faire tout ce que nous devons faire jusqu'au bout. Et je vous encourage de tout mon cœur à venir à la réunion des femmes célibataires. La dernière fois, on a donné nos témoignages les unes les autres et c'était tellement émouvant. Tout le monde a découvert ce qu'elle voulait faire pour le Seigneur et, ou ce qu'elle aimerait faire ou ce qu'elle fait déjà. Et tout le monde s'est rendu compte que c'est tellement ça que le Seigneur veut de nous et veut plus de nous. Et vous savez, la parole de Dieu déclare que celle qui est mariée s'occupe des choses de son mari, de plaire à son mari, mais celle qui n'est pas mariée s'occupe de plaire à Dieu. Et nous voulons vraiment savoir la volonté de Dieu pour notre vie, chercher à savoir ce qu'il veut de nous. Et notamment nous les femmes célibataires, il nous appelle à être des sentinelles dans sa maison, des sentinelles dans nos familles, des sentinelles sur nos vies, sur nos bouches, sur nos oreilles, des sentinelles pour nos frères et sœurs, des sentinelles pour nos sœurs qui sont mariées, qui ont besoin de nous, pour les aider. Et quand on sera mariés, on récoltera ce que nous avons semé. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Tout un programme, n'est-ce pas? Très, très, très important. De pouvoir cibler les besoins. Et vraiment, ces réunions sont une bénédiction, elles sont pour vous. Est-ce que vous êtes prêtes cet après-midi? Parce que je ne veux pas perdre trop de temps à dire des choses par-ci ou par-là. Je veux entrer dans les choses qui sont spirituelles et aussi pratiques. Je ne veux pas vous laisser filer non plus très tard. Parce que demain matin, il y a culte à 10h. Et je ne veux pas qu'on dise que la réunion des femmes... vous ferez arriver en retard. Oh, on change d'heure demain en plus. Ouh, on dort une heure de moins. Merci de me le rappeler. Oh, Jesus. Rappelez-moi ça surtout avant de partir. Ok. Est-ce que vous avez vos Bibles? Oui. Alors, j'aimerais vous partager quelque chose. Enfin, même à vrai dire, différentes choses. Et j'aimerais que vous tourniez dans Ésaïe, au chapitre 3. Maintenant, avant de vous lire ce passage, qui est un passage assez salé, épicé, je ne sais pas comment tellement le dire, j'aimerais que vous sachiez qu'à chaque fois que je pense à la réunion des femmes, j'ouvre ma Bible exactement à cet emplacement. Là, à l'instant, je viens de me dire, oui, j'ai oublié de prendre la référence du passage que je dois partager. Et j'ouvre ma Bible exactement à cette référence. Et ça fait plusieurs jours que ça dure, et je sais que le Saint-Esprit a quelque chose à dire ici, à l'Église. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans Ésaïe au chapitre 3? Et maintenant, vous allez avec moi au verset 16. Waouh. Alors, dites-moi déjà que vous m'aimez, hein. Merci. Avant de passer à la parole, dites que vous m'aimez, que rien ne va changer. Vous allez toujours m'aimer, même après. Alléluia. La Bible dit que c'est la vérité qui nous rend libres. C'est jamais en nous caressant dans le sens du poil qu'on peut avancer, mais c'est en disant les choses telles qu'elles sont que l'on peut vraiment évoluer. Gloire à Dieu. Donc au verset 16, il est écrit, vous êtes avec moi? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Faites un sourire. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles et les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gypsières, les miroirs et les chemises fines, les turbans, et surtout les légers. Au lieu de parfum, il y aura l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de la beauté, et tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Alors, vous dites, qu'est-ce que je suis venue entendre cet après-midi? J'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est dans la Bible et c'est dans la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes. Et je suis heureuse que toutes les femmes sont là cet après-midi et que je me rends compte que le samedi après-midi, ça marche, c'est plus facile pour vous que le samedi matin. Et gloire à Dieu, donc on continue dans cette optique-là. Et donc, toutes les femmes sont là, les jeunes et les moins jeunes. Et je suis particulièrement heureuse que les jeunes soient là. Parce que c'est pas facile d'être jeune. Et on a toutes été jeunes. Et on sait que l'on est fragile lorsque l'on est jeune. Et parfois, même lorsque l'on est toujours pas marié ou que l'on a toute espèce de choses dans notre vie et qu'on a 30 ans ou 40 ans ou plus, on peut aussi être fragile. Donc cette parole s'adresse à tout le monde. Mais je pense particulièrement, bien que je m'adresse à tout le monde, je pense particulièrement aussi aux jeunes femmes. Et j'aimerais leur dire que lorsque l'on est jeune, on est influençable. Lorsque l'on est jeune, on est en construction de notre personnalité. Le regard des autres est très important. Et le regard des autres détermine le style de vie que l'on choisit. Et c'est un temps, la jeunesse, et cela commence à partir de l'adolescence, c'est un temps de fragilité et de faiblesse. Et dans ce temps de fragilité et de faiblesse, il est temps de devenir forte et ferme. Parce que le monde est fragile et le monde est influençable. Mais vous qui êtes dans le Seigneur, la Bible dit que plantez dans la maison de Dieu, vous allez devenir comme un olivier verdoyant, vous allez devenir comme une plantation de l'Éternel. Dieu veut que vous soyez forte. Et Dieu veut que vous ayez une identité. Dieu ne veut pas que votre style de vie, que votre alimentation, hello, que ce que vous mangez ou que vous ne mangez pas, que ce que vous portez, ce que vous achetez, soit dicté par le monde. Maintenant, dans ce passage terrible des Écritures, parce que c'est un passage terrible, ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Ce passage s'adresse aux filles de Sion. Et lorsque l'on est dans le Seigneur, on est des filles de Sion. Parce qu'on sait ce qu'est la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne sur laquelle on monte et on connaît qui est notre Dieu. C'est la montagne sur laquelle on va et on le loue et on l'adore et on le rencontre. Et voyez-vous, la montagne de Sion n'est pas la montagne. C'est la montagne de la grâce. Ce n'est pas une autre montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne des enfants de Dieu. Et là, il est écrit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion, il s'adresse aux filles de Sion. Il ne s'adresse pas ici, l'Éternel ne s'adresse pas ici aux filles du monde. Il ne s'adresse pas aux jeunes femmes ou aux femmes plus âgées qui sont dans les boîtes de nuit. Ou qui sont dans le monde, ou qui sont dans la fornication, ou qui sont dans l'adultère. Il ne s'adresse pas à ces femmes-là. Parce que ce ne sont pas des femmes qui connaissent la montagne de Sion. Là, il s'adresse à des femmes qui connaissent la montagne de Sion. Et voici ce qu'il dit. Il dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Qui est-ce qui marche le cou tendu? Qui est-ce qui marche les regards effrontés? Est-ce que Dieu est contre votre prospérité? Non. Est-ce que Dieu est contre votre beauté? Non. Est-ce que Dieu est contre les bijoux? Est-ce que Dieu est contre le maquillage? Est-ce que Dieu est contre les beaux vêtements et même les marques et des choses qui vous font plaisir? Non. Parce qu'il veut que vous soyez la tête et non la queue. Il veut que vous soyez au-dessus et non au-dessous. N'est-ce pas? Il veut vraiment votre meilleur. Mais qui est-ce qui marche le cou tendu? Qui est-ce qui marche le cou tendu? Qui est-ce qui marche les regards effrontés? Est-ce que les filles de Sion doivent marcher le cou tendu? Est-ce que les filles de Sion doivent marcher les regards effrontés? Non. Parce que ça, c'est le monde. Et c'est l'esprit qu'il y a dans le monde. Et cet esprit-là ne doit pas être sur nous. J'ai peut-être pas une longue parole à vous prêcher. Mais oui, elle a pas besoin d'être longue, elle a juste besoin d'être salée. Elle a juste besoin d'être épicée. Et voici ce qu'il dit. Donc parce qu'elles ont les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Tout ça, c'est très important pour elles. Mais vous savez, c'est très important pour nous et pour chaque femme, c'est très important d'être au mieux de sa forme, d'être, d'avoir une belle image et de, une belle représentation. Et aussi, on se rend compte que l'on est ambassadeur de Christ. Hein. La Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs et des ambassadrices pour Christ, c'est-à-dire des représentants. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je pense aux ambassadeurs de France à l'étranger. Qu'est-ce que la France fait pour les ambassadeurs à l'étranger? La France leur donne un endroit très soigné dans lequel ils demeurent. Lorsqu'ils reçoivent les délégations étrangères, il y a un chef qui cuisine, c'est un chef qui a des étoiles. Il y a une table qui est servie, il y a, notamment on peut dire en France, et parfois c'est très excessif, mais il y a, vous savez, le soin à la française. Il y a les plats à la française. Il y a le style de vie à la française. Et la France investit dans le style de vie de ses ambassadeurs. Parce que ils sont des ambassadeurs de la France à l'étranger. Nous sommes des ambassadrices de Christ. Hello. Et en tant qu'ambassadrices de Christ, nous devons nous trouver exactement au point central où Dieu veut que nous soyons. Ni trop, ni pas assez. Dieu ne veut pas que vous soyez des serpillères. Dieu ne veut pas que vous ne preniez pas soin de vous-même. Dieu veut que vous soyez des ambassadrices, des femmes qui vont le refléter dans le monde. Pas que dans l'église, mais dans le monde. Vous êtes l'image de Christ. Vous représentez Christ. Aussi longtemps que vous parlez de Christ et de Jésus, alors on vous prend pour une ambassadrice. Maintenant, si vous mettez votre drapeau dans votre poche, personne ne saura que vous représentez Christ. Hello. Mais vous êtes une ambassadrice de Christ. Donc Dieu veut que vous soyez d'une certaine façon. Je pense que dans n'importe quel ministère, au gouvernement ou ailleurs, lorsque l'on a une entreprise, lorsque l'on a des employés, on forme ces employés. Et qu'est-ce qu'on forme? Comment on forme les employés? Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit ce que l'on veut qu'ils soient et ce que l'on veut qu'ils ne soient pas. Eh bien, je crois que dans ces passages de l'Écriture, Dieu parle aux filles de son peuple, parce que ça s'adresse ici aux filles, n'est-ce pas? À ses filles, qu'il aime tant. Il parle à ses filles, il leur dit, voilà ce que je veux que vous soyez, et voilà ce que je veux, je ne veux pas que vous soyez, parce que vous êtes mes ambassadrices. Et si vous êtes mes ambassadrices, il y a des choses qui ne doivent pas, ou qui ne doivent plus exister dans votre vie. Alléluia. Et donc, les attitudes qu'ils décrivent ici, sont des attitudes qui viennent du monde. N'est-ce pas? Et Dieu ne veut pas que le monde entre dans nos vies. Que le monde entre dans nos habitudes. Et je pense particulièrement donc aux femmes qui sont plus jeunes. Je pense particulièrement aux jeunes femmes ici, comme je le dis, qui sont plus fragiles et qui sont plus sensibles. Eh bien, je m'adresse à vous particulièrement et je vous dis, ne cherchez pas à ressembler au monde. Et je vais vous dire pourquoi. Mais ne cherchez pas à ressembler au monde. Ne cherchez pas à faire les régimes du monde. À vouloir ressembler à un squelette. Eh oui. À vouloir être à moitié anorexique. On en rit. Il y a des jeunes femmes qui meurent tous les ans, qui sont dans les hôpitaux, qui sont possédées d'esprits mauvais, mangées de l'intérieur, parce qu'elles veulent ressembler au monde. Et le diable prend l'avantage sur leur vie. Soyez pas des anorexiques. Soyez pas des femmes qui vous regardez de tous les côtés et qui mettez votre assurance simplement sur votre apparence extérieure. L'assurance d'une personne n'est pas par rapport à son aspect extérieur. Il y a des jours où vous êtes mieux que d'autres. Il y a des jours où vous avez plus de poids que d'autres jours. Mais ça ne veut pas dire que les gens vous trouvent plus belle ou moins belle. Parce que la beauté vient de l'intérieur. On ne le dira jamais assez. Une femme qui a de l'assurance, mais de l'assurance qui vient de l'intérieur et pas par rapport aux choses extérieures. C'est facile d'avoir de l'assurance lorsqu'on vient de s'acheter une nouvelle veste. Hein? En plus, c'est une belle veste, elle a coûté cher, elle nous va bien. C'est facile de marcher avec une certaine assurance. Et puis le lendemain, vous n'avez plus cette veste à mettre et vous vous sentez mal. C'est pas de ce genre d'assurance dont je parle. Je parle d'une assurance qui vient de l'intérieur. Une assurance de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous valez. Une estime de vous qui ne dépend pas des temps et des circonstances, qui ne dépend pas de ce que votre portefeuille peut acheter ou ne peut pas acheter. Une assurance à l'intérieur. Cette assurance-là va vous donner la beauté et la grâce et l'impact dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Donc, ne cherchez pas à ressembler au monde. Le monde s'appuie sur une assurance ou sur une beauté qui vient de l'extérieur. Mais vous devez appuyer votre beauté et votre grâce sur quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc ça veut dire il faut vous développer à l'intérieur, il faut vous construire à l'intérieur, il faut vous bâtir à l'intérieur. Il faut développer une personnalité et un caractère. Plutôt que de changer de garde-robe tous les 4 matins. Hein ? Non, c'est bien de changer de garde-robe. Je ne suis pas contre cela, bien sûr. Alors, voici ce qu'il est écrit. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Voici une parole qui est dure à entendre. Combien d'entre vous, vous aimeriez que le sommet de votre tête soit chauve? Combien d'entre vous aimeriez perdre vos cheveux, là, ici, jusque-là? Vous aimeriez avoir une tonsure sur le devant? Hein? Est-ce que ça plairait à quelqu'un ici? Et pourtant, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, la Bible dit que si nous sommes comme ces filles-là, comme ces filles du monde, Dieu, l'Éternel, rendra chauve le sommet de notre tête. Waouh ! Alors moi, je connais beaucoup de gens, et beaucoup de chrétiens, qui ont l'esprit du monde. Je n'ai pas encore vu le sommet de leur tête chauve. Et je crois que je ne le verrai pas. Je crois que je ne le verrai pas dans le naturel. Parce que qu'est-ce que ça veut dire véritablement? La Bible dit que la chevelure, c'est la parure de la femme. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que la chevelure est une parure. Si nous sommes comme le monde, que nous nous identifions au monde, que nous adoptons des attitudes comme le monde, dans notre vie, dans l'église, les unes envers les autres, Dieu rendra chauve le sommet de notre tête. Et vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu ne ment pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu va enlever votre beauté. La chevelure, c'est la parure. C'est la beauté d'une femme. Dieu va enlever votre beauté. Vous dites, en quoi Dieu va enlever ma beauté? Dieu va-t-il changer mes traits? Dieu va-t-il changer mon visage? Non. Mais il va enlever la grâce qu'il y a sur votre vie. Je peux vous dire, lorsque l'on est une femme de Dieu, et je ne parle pas d'une femme de Dieu qui se tient derrière l'estrade ou sur un micro, je parle de quelqu'un, une femme qui aime Dieu, qui sert Dieu et qui vit avec ses convictions intérieures comme une femme du Seigneur. Lorsque l'on est une femme de Dieu, on a une grâce et une beauté sur notre vie. Parce qu'on n'est pas comme le monde. Le monde dans lequel nous sommes est souillé, perverti. Nous arrivons à un temps où l'antéchrist va être libéré. Les démons sont libérés plus que jamais. Et ce n'est pas fini. La perversité et les pires choses existent dans ce monde. Et je pense que ce n'est toujours pas fini. C'est difficile d'allumer sa télévision et d'écouter les nouvelles, d'écouter ce qui se passe dans le monde, de voir l'impureté qui est rampante de tous côtés. C'est difficile de vivre dans ce monde. Et Dieu sait ce qu'est ce monde. Ce monde est dirigé par Satan. Dieu, la terre, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Tout ce qui existe dans ce monde, Dieu l'a créé. Ça appartient à l'Éternel. Mais depuis qu'Adam a donné les clés à Satan, et Dieu merci pour Jésus qui lui a repris, qui les a données à l'Église, Satan a été le prince de ce monde. Il est encore le prince et le Dieu de ce monde qui aveugle les yeux des gens. Et donc ce monde est un monde profondément corrompu. Donc lorsque l'on veut s'identifier à nos amis, à nos camarades de classe, à celles qui vont en boîte de nuit, celles qui vivent de façon libertine, celles qui prônent la sexualité libre, parce que le monde prône la sexualité libre. Le monde est complètement insensé et stupide. J'essaie d'utiliser les mots les plus corrects pour expliquer le monde. Des continents meurent du sida. Hein? Des gens meurent du sida. Est-ce que vous avez vu quelqu'un mourir du sida? C'est une déchéance, c'est une souffrance. Nous ne voulons pas que nos enfants soient touchés par le sida. Mais qu'est-ce que dit le gouvernement? Qu'est-ce que disent les gens? Les gens disent préservatif. Mais qu'est-ce que dit l'Église? L'Église dit abstinence. Il n'y a pas d'autre réponse au sida que l'abstinence. Il n'y a pas d'autre réponse au sida que de changer de style de vie, de se sanctifier pour le Seigneur et de vivre une vie pure et sainte. Lorsque l'on voit le monde tel qu'il est, on ne veut pas lui ressembler. Je ne veux pas ressembler au monde. Le monde a vraiment, vous savez, on sent la salissure du monde, on sent la souillure du monde. Lorsque vous marchez parfois dans certains endroits, vous regardez les yeux qui se posent sur vous, et parfois vous vous sentez sali. Et lorsque l'on sent ces choses-là, on sait à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas ressembler au monde. Ça ne veut pas dire, et je le répète encore, parce qu'en aucun cas dans ce lieu, nous n'avons jamais prêché un message qui lie qui que ce soit, ou un message qui enferme les gens dans la religion ou dans un esprit religieux. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas être dignes, ne doivent pas être belles, mais elles doivent rester en tout temps et en toutes circonstances respectables. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église et dans la maison de Dieu, habillez-vous de façon respectable. Ne mettez pas des décolletés plongeants. Vous pensez que les hommes sont des saints? Vous pensez que les hommes sont des anges? Les hommes sont des hommes. Ils ont été créés par Dieu tels qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez, hein? Les hommes sont... Quand une femme marche devant un homme et qu'un homme papillonne avec ses yeux parce qu'elle a une jupe transparente ou un décolleté plongeant ou une robe qui est provocante, on ne peut pas dire que les hommes sont impurs, sont mauvais, sont méchants. Les hommes sont des hommes. Dieu leur a donné deux yeux. Donc lorsque l'on vient dans la maison de Dieu, on s'habille de façon respectable. Vous comprenez? On n'est pas à l'époque du voile, hein? On ne met pas le tchador ici. Mais au moins, on veille sur sa personne. Parce que les femmes, pour qu'elles soient belles, elles doivent être dignes. Et une femme n'est jamais respectée lorsqu'elle met ses jambes à l'air, lorsqu'elle met sa poitrine à l'air, lorsqu'elle se déshabille, il n'y a aucune valeur. Il n'y a pas de valeur en elle. C'est très important. Bon, c'est une parenthèse. Mais c'est important de le dire, n'est-ce pas? Et c'est toujours mieux de le dire dans la réunion des femmes, hein? Que du haut de l'estrade, lorsque tout le monde est là. Alors dites merci Seigneur pour la réunion des femmes. Je veux que vous ayez une identité forgée en Christ. Et que vous voyez comme Dieu voit et que vous pensiez comme Dieu pense. Parce que la Bible dit, si vous voulez être comme le monde, alors Dieu enlèvera les cheveux sur le sommet de votre tête. Vous serez chauve. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas chauve dans le naturel, mais c'est chauve de votre grâce, de votre beauté intérieure, de ce que vous irradiez. Parce que lorsque vous êtes une femme pure et sainte, qui vous tenez éloignée de la promiscuité, des relations sexuelles, avant le mariage, qui tenez écarté de toute espèce de choses, de jeux, de dialogues, de conversations malsaines. Vous êtes différente du monde, vous aurez des persécutions. J'en ai eu, je n'en ai plus, parce que je ne suis plus dans le monde. Ma vie et mon appel fait que j'ai peu de contact avec le monde, je me trouve rarement. Mais tous ces jeunes qui vont à l'université, tous ces jeunes qui vont à l'école, vous allez vous faire persécuter. Vous vous ferez persécuter parce que vous ne sortez pas avec les garçons comme les autres sortent avec les garçons. Parce que vous ne montrez pas une sexualité débridée. Et Dieu merci pour cela. Mais en même temps que vous serez persécuté, en même temps vous serez respecté. En même temps vous serez honoré. Je vais vous dire une chose. Les femmes musulmanes n'ont pas peur de dire ce en quoi elles croient. On les voit à la télévision. On a vu des émeutes, on a vu le problème du voile. On a vu des femmes virulentes venir à la télévision dans des débats intellectuels, idéologiques. Venir et dire, nous, en dépit de tout ce que la société française pense, parce que qu'est-ce que la société française pense du voile ? Qu'est-ce que les Français pensent du voile ? Les Français pensent, oh mais ben, qu'est-ce que c'est que ces femmes voilées ? Personne, la société française n'est pas pour le voile. Mais en dépit de ce que tous les gens pensent, elles sont venues à la télévision, elles ont dit, nous, nous revendiquons. Et elles ont revendiqué ce en quoi elles croyaient, et ce en quoi elles croyaient est totalement à l'inverse des 60 millions qui sont devant leur poste. Hein ? Mais elles n'ont pas peur de dire cela. Pourquoi les chrétiens auraient peur de dire, nous croyons dans l'abstinence, nous croyons dans la pureté, nous croyons qu'il n'est pas bon d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Nous croyons que nous n'avons pas besoin de tester, d'expérimenter pour enfin trouver la personne qui va nous convenir. Nous pensons différemment. Nous pensons à l'inverse de tout le monde. Mais est-ce que nous devons avoir honte de ce que nous pensons ? Est-ce que les gens ont honte de ce qu'ils pensent ? Non. Non. Les personnes, les pires personnes, qui font les choses les plus malhonnêtes, impures, dégradantes, n'ont même pas honte de ce qu'ils font. Alors nous, qui prenons des choses excellentes, supérieures, qui viennent tout droit de Dieu et de la parole de Dieu, en aucun cas nous devons avoir honte. Alors si nous voulons ressembler au monde, Dieu ne va pas vous tordre le bras. Mais il va vous enlever sa grâce. Il va vous enlever sa beauté. Il va vous enlever l'ornement spirituel qui repose sans que vous le réalisiez sur votre vie et qui fait que vous êtes belle. Qui fait que vous êtes différente. Qui fait de vous une femme de distinction. Qui fait de vous une femme élégante. Qui fait de vous quelqu'un de différent. C'est donc un choix. La balle est dans votre camp. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit n'a cessé de revenir et de revenir sur ces Écritures depuis que je pense à la réunion des femmes. Mais je sais que c'était le message que j'avais pour vous cet après-midi. On va continuer de le lire ensemble. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfums et les amulettes. Vous remarquez que les filles de Sion portaient toutes ces choses. Donc vous comprenez que Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il dit parce qu'elles sont orgueilleuses, parce qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, hein, parce qu'elles n'ont plus l'Esprit de Dieu en elles, tout ce qu'elles avaient l'habitude de porter, qui les ornait, qui les rendait belles. Dieu n'était pas contre ces choses. Maintenant, je crois que, évidemment, on voit une outrance de choses. On imagine qu'elles portent pas tout ça en même temps, hein. Les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les ceintures. Ouh, mon Dieu! Mais on voit que Dieu n'est pas contre la beauté de la femme. D'accord, c'est très important de répéter cela, surtout dans ce genre de passage. Ok, les boîtes à parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez. Hein. Vous rendez compte? Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux égyptiens, les miroirs, les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Eh oui. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Combien d'entre vous voulez sentir la transpiration? Hein? Combien d'entre vous voulez sentir mauvais? Eh bien, spirituellement, vous sentez mauvais. si vous ne voulez pas vous tenir dans votre position de fille de Sion. Hello. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. C'est exactement cela. L'esprit du monde met une marque flétrissante au lieu de la beauté. Il faut méditer. Il faut réfléchir. Et pour certaines personnes, c'est très important ce que je dis. Je crois que ça va vraiment vous mettre devant un choix, parce que c'est aussi un choix et c'est aussi une décision. Nos jeunes, nos enfants, nos filles qui grandissent doivent faire des choix. C'est pourquoi j'ai besoin aussi de parler aux parents. Et il y a des choses que je veux rappeler de façon pratique. J'ai noté certaines choses. Laissez-moi retrouver quelques petites choses que j'avais à cœur de vous dire. Ok. J'avais envie de parler aussi de l'obéissance. Là, je m'adresse donc aux parents. Beaucoup de parents élèvent de petits-enfants. Et on apprend à nos petits-enfants l'obéissance, n'est-ce pas? C'est pas une chose simple, hein, c'est du travail. Apprendre à les faire obéir. C'est d'abord apprendre nous-mêmes à obéir. Nous ne pouvons pas apprendre l'obéissance à nos enfants si nous n'obéissons pas d'abord nous-mêmes. Parce que tout s'apprend par l'exemple. Ce que je suis, c'est ce que mes enfants seront. Maintenant, on exige de nos enfants de l'obéissance. Mais quand ils grandissent, écoutez les parents, quand ils grandissent, dans la société dans laquelle on vit, tout se complique. Et les parents doivent rester des parents. Et de la même façon que vous avez, entre guillemets, donné naissance à vos enfants dans le naturel, lorsqu'ils étaient petits, lorsqu'ils deviennent des adolescents, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes adolescents, lorsqu'ils deviennent des adolescents, il faut de nouveau leur donner naissance, mais cette fois-ci de façon spirituelle. Et lorsqu'ils sont nés, vous avez eu les douleurs de l'enfantement, et vous avez eu des douleurs physiques. Mais lorsqu'ils grandissent, vous allez avoir les douleurs de l'enfantement, mais cette fois-ci, ce sera spirituel. Et vos enfants, c'est sur les genoux que vous allez les enfanter. C'est dans la prière. C'est très difficile d'élever des enfants dans ce monde. Je crois, malgré tout, que c'est possible. Je crois que nous, en tant que parents, nous devons faire confiance en nos enfants. Nous devons garder foi en Dieu. Et lorsqu'ils ne marchent pas droit, nous devons nous rappeler que nous avons semé des semences et que ces semences, rien ni personne ne pourra les enlever. Et que si nous sommes vigilants dans la prière, eh bien, ce temps d'égarement dans lequel passe parfois la jeunesse fera raccourcir justement ce temps et les ramènera dans les voies du Seigneur. Maintenant, en tant que parents, on ne peut pas être démissionnaire. Dieu a fait de vous des parents. Et vous devez rester des parents. Et si vous avez demandé de l'obéissance à vos enfants lorsqu'ils étaient petits, il faut continuer à exiger de l'obéissance envers vos enfants lorsqu'ils grandissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la société est ce qu'elle est, c'est parce que les parents sont des missionnaires. Les parents ont arrêté d'être des parents. Les parents ont choisi de vivre leur vie. Ils ont choisi de se remarier. Ils ont choisi de quitter mari et femme, ils ont choisi de... Enfin, ils ont fait leur choix et ils font leur crise d'adolescence, les parents souvent à 40 ans ou à 50 ans. Et les enfants sont des adolescents à ce moment-là. Et donc, personne n'est là sur les enfants. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit des enfants de 15 ans qui sont en boîte de nuit. On voit toute espèce de choses. On voit ce qui se passe dans les rues, on voit ce qui s'est passé en novembre dernier. Pas un parent qui était capable de garder son enfant à la maison. Et une débandade et une anarchie incroyable. Donc, nous, en tant que parents chrétiens, moi, j'aimerais simplement vous rappeler des choses pratiques. Je pense que c'est important. Le dimanche, on est spirituel, on parle de choses spirituelles, on parle d'Élie, d'Élisée, de plein de choses de la Bible. Moi, j'aimerais plutôt vous parler de choses pratiques si c'est OK pour vous. J'ai conscience aussi que tout le monde n'est pas parent, donc... Je ne vais pas passer trop longtemps, mais l'obéissance est importante. Vous devez garder, il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas transiger. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas perdre du territoire. Et ça, ça s'enseigne avant que l'enfant ait 15 ans. C'est pas lorsqu'il a 15 ans, lorsqu'il a 16 ans, qu'on essaie de lui expliquer des choses dans lesquelles il est déjà dedans depuis un an ou deux ans. Il faut s'y prendre plus tôt. Et c'est un travail de tous les jours, ou évidemment pas de tous les jours, mais c'est un travail régulier. Vous devez faire attention à la musique qui entre dans vos maisons. Dans la musique, il y a vraiment l'esprit du diable. Il y a un esprit de rébellion. Les jeunes qui écoutent de la musique du monde ont les mêmes pulsions que le monde, parce que c'est spirituel. Ils ont les mêmes désirs que le monde. Et donc, c'est très important en tant que parent, en tant que mère ici, de faire attention aux musiques qui entrent dans vos maisons. C'est très important de faire attention aux films qui entrent dans vos maisons. Je dis des choses très simples et très basiques. Mais parfois, on est tellement pris, accaparé par notre travail, par le fait de gagner de l'argent, payer les factures, s'occuper du mari, et faire toutes ces choses qui sont pratiques et nécessaires, qu'on oublie des choses qui sont tellement importantes, mais qui vont déterminer notre avenir, qui vont déterminer les années qui suivent. Donc, je le répète, l'obéissance quand on est petit, oui. L'obéissance quand les enfants grandissent, oui. Oui, c'est possible d'interdire. Il y a des choses à autoriser. Il y a des choses aussi à interdire. Donc, c'est possible d'interdire. Vous n'avez pas besoin de culpabilité. Maintenant, vous ne pouvez pas tout interdire. Vous ne pouvez pas prendre votre enfant, l'étouffer, l'empêcher de voir, l'empêcher de vivre, lui fermer les oreilles et attendre que ça se passe, qu'il ait 25 ans et hop, on le rouvre, on le sort de la boîte. Non. Ils vivent, les enfants. Mais il y a des choses sur lesquelles... Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne transigez pas, mais vous ne pouvez jamais interdire quoi que ce soit sans l'expliquer. Vous devez absolument expliquer, justifier, montrer avec la parole de Dieu, donner des exemples concrets, des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord de ceci ou cela. L'interdiction ou l'exigence de l'obéissance se fait toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour. C'est toujours parce que je t'aime et parce que je veille sur toi et parce qu'il y a tel et tel et tel danger, que je ne veux pas que tu fasses ça, et je ne veux pas que ça rentre dans ma maison, et je ne veux pas parce que Dieu ne veut pas non plus. Vous comprenez cela? Il faut être vigilant sur certaines choses, mais il faut aussi expliquer. Amen. Ne capitulez pas sur Internet. Hello. Ne capitulez pas sur certains jeux. Ne capitulez pas sur la musique. Ne capitulez pas sur les films ou la télévision, sur certains programmes et autres choses. C'est très important. Ça, ce sont des choses pratiques, n'est-ce pas? J'aimerais dire aussi aux parents que rappeler une chose qui est évidente, qui fait que c'est enfin bon. L'enfance est en danger. L'enfance est en danger. Ce monde. Ce monde, sur certains aspects, est sûrement merveilleux, mais mon Dieu, ce monde est un défi. Alors évidemment, je pense à ça, et cette semaine, en fait, j'ai vu différents programmes, j'ai vu différentes choses que vous avez peut-être vues vous-même à la télévision par rapport à Internet et toute la pédophilie. Et j'aime prendre le temps de toujours rappeler ces choses qui sont tellement importantes. Vous devez veiller sur le corps de vos enfants. Vous êtes responsable du corps de vos enfants. Vous devez vivre avec une vigilance absolue sur vos enfants. Parce que le diable est là avec ses grosses pattes sales et il a l'intention de tâcher vos enfants. Et vous savez qu'une fois suffit pour renverser et bouleverser le cours d'une vie ou d'une existence. Donc, je rappelle aux parents, et ça c'est vraiment un cri de mon cœur, si je pouvais le faire à chaque réunion, je le ferais. Je rappelle aux mères, elles sont entièrement responsables du corps de leurs enfants. Elles doivent veiller sur leur corps, elles doivent écouter les appels de leurs enfants, elles doivent questionner leurs enfants. Vous savez, moi, Louis, je lui apprends des choses. J'essaie tout au moins de... de le préparer et de lui expliquer des choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, lui expliquer qu'il y a des gens dangereux, qu'il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Vous savez, nous étions en Inde avec Louis, pas ce voyage, mais le voyage précédent, nous étions dans le lobby d'un hôtel. Louis jouait avec... il y avait quelques enfants qui étaient là, il y avait un cousin qui était là d'ailleurs, et il y a un homme qui est venu de façon très innocente, qui est venu et qui était totalement fasciné par Louis, un homme d'un âge mûr, je dirais 40 ou 50 ans, qui était dans cet hôtel là et il est venu et en fait Louis sautait sur un, il y avait un espèce de coussin comme ça, il sautait sur le coussin et il jouait, etc. Et l'homme est venu, il s'est agenouillé, il s'est mis au niveau de Louis. Il a commencé à lui parler et lui a dit « Si tu viens dans ma chambre, tu sais, je vais t'offrir un jouet. » Et au bout d'un moment, j'ai vu cet homme qui était agenouillé, qui parlait avec Louis et Louis qui lui souriait innocemment. Je suis allée reprendre mon fils rapidement. Je ne savais absolument pas ce qui se passait, mais j'ai senti une alarme dans mon cœur. Et la personne est partie. Et j'ai questionné Louis. J'ai dit, qu'est-ce que cette personne disait? Il m'a dit, oh, si je vais dans sa chambre, il va me donner un jouet. Sauf que ça, ces gens-là, lorsque l'on voit ce qui se passe sur Internet, vous avez peut-être écouté les émissions cette semaine, enfin, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, où est-ce que j'ai entendu ça, mais enfin, ils parlaient d'Internet cette semaine, semble-t-il. Ils expliquaient que les jeunes qui vont en ligne sur Internet sont contactés par un pédophile qui se prétend avoir 12 ans ou 14 ans. Au bout d'être en ligne, au bout de 3 ou 4 minutes. Mais c'est incroyable. Mais c'est fou. C'est dramatique. C'est ultra dangereux. Donc, parents, soyez des parents, ne soyez pas des missionnaires. J'ai entendu, notamment de par ma position pastorale, mais j'ai entendu des confessions, des choses que moi-même je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer qu'il existe. On sait un certain nombre de choses classiques. On connaît évidemment tous les problèmes de pédophilie, bien sûr, d'inceste. J'ai entendu des témoignages donc de viols entre frères et sœurs ou toute espèce de choses. Ou moi-même vivant dans un monde protégé, je n'avais pas conscience de choses qui ne vous viennent simplement pas à la tête parce que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais le monde, lui, il imagine. Donc vous devez avoir deux antennes et vous devez veiller sur vos enfants. Amen. Très important. Alléluia. Faites-moi un sourire. J'ai une dernière chose à vous partager, qui est une chose pratique. Alors après avoir parlé aux femmes, j'ai parlé maintenant aux mères, et j'aimerais parler aux épouses. Est-ce qu'il y a des épouses ici? Vous les épouses, je vous dis simplement ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Parce que on pourrait rester toute la soirée à ne parler que aux femmes ou ne parler que aux mères. Et aux choses de l'enfance ou de l'adolescence. Donc je vous dis simplement ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, parce que je pense que ça correspond à peut-être certains besoins, enfin j'en suis sûre, certains besoins ici. Vous, les femmes, et particulièrement les épouses, sachez qu'il y a un verset qui s'applique à vous, votre vie, votre condition d'épouse, et vous n'avez jamais pensé que ce verset était très très important pour vous. Mais je vais vous le dire. C'est un verset que vous connaissez bien. Et ce verset déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Méditez. Les femmes se marient avec un homme idéal dans leur pensée. Elles se retrouvent avec un homme réel. Elles épousent le prince charmant dans leur pensée. Elles se retrouvent avec un homme en chair et en os, un vrai, qui range pas ses chaussettes sales, qui n'aide pas, dans certains domaines, qui a des failles, qui a des faiblesses. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont insatisfaites. Et lorsque les femmes, elles sont insatisfaites, elles sont frustrées. Et lorsqu'elles sont frustrées, qu'est-ce qu'elles font? Elles râlent. Et lorsqu'elles râlent, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent des paroles blessantes. Seulement, tout ça, c'est un cercle vicieux. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Ce que vous dites, ou les paroles blessantes que vous pouvez dire à propos de votre mari, ou sur votre mari, ou directement à votre mari, vont le dépouiller de sa force et de sa capacité à faire bien. Est-ce que vous savez que des femmes qui râlent affaiblissent leur mari? Hello. Des femmes qui râlent font que, plutôt que le mari devienne comme elle voudrait qu'il devienne, il devient pire. Donc elles sont créatrices de leurs propres problèmes. Souvent, la femme est à la base des choses qu'elle aimerait voir changer et qui ne changent pas ou qui empirent à cause de ses paroles, de la façon dont elle réagit dans une situation. Alors vous les femmes, j'aimerais que vous sachiez que vos paroles sont importantes. Vos paroles construisent vos maris ou vos paroles détruisent vos maris. Vos paroles motivent vos maris ou vos paroles vous le démotivent. Lorsque vous râlez, vous le faites fuir. Vous savez ça? Je n'ai jamais vu un mari dont la femme râle se rapprocher de sa femme. Or, pourquoi la femme râle? Parce qu'elle veut que son mari soit plus proche ou plus attentif. Elle fait exactement le contraire de ce qu'elle veut. Elle est spécialiste, la femme, pour ça. L'épouse spécialiste. Elle fait toujours l'inverse de ce qu'elle veut. Vous savez, je crois vraiment que les hommes sont nés sur Mars et que les femmes sont nées sur Vénus, hein. Je crois vraiment que l'homme et la femme sont vraiment nés sur deux planètes différentes, hein. Parfois, on se rencontre sur la planète Terre. On est vraiment différents. On est bâtis différents. On pense différemment. Donc, il faut qu'on change. Et on doit les comprendre, ces hommes. Parce que si on ne les comprend pas, ils ne nous comprennent pas non plus. Et on se tourne, on se court après sans jamais se retrouver et sans jamais solutionner nos problèmes. Donc j'avais à cœur de dire aux femmes, faites attention à vos paroles. Si vous voulez que votre mari devienne ou change et devienne ce qu'il veut, ce que vous voulez qu'il devienne, commencez à déclarer ce que vous voulez plutôt que de dire et de râler sur ce qu'il n'est pas, parce qu'il va empirer. Une femme peut vraiment voler la virilité d'un homme. Est-ce que vous savez ça? Vous me regardez, je me demande si vous comprenez ce que je dis, ou je me demande même si, est-ce que ça vous intéresse éventuellement? Une femme peut dépouiller un homme de sa virilité. Moi, je vais vous dire, les femmes, c'est très important que les hommes soient des hommes. Il faut que vos hommes restent des hommes. Il faut que vos hommes restent des têtes, des chefs du foyer. Parce que c'est comme ça que vous êtes bénis. Lorsqu'une femme prend trop de force, elle prend trop l'ascendant, elle gère tout, elle laisse rien à son mari. Oh, elle dit oui, mais mon mari, il ne fait rien. Il ne fait rien parce que vous dites que tout ce qu'il fait, il le fait mal. Alors plus vous dites que ce qu'il fait, il le fait mal, moins il en fait. Et plus vous retrouvez à faire et à gérer tout. Et un jour, le mari n'est plus à la maison. Ça, c'est le cas extrême. C'est pour que vous ayez l'image. Mais plus ça va, et plus le mari, il perd sa force, sa virilité, ce qu'il est en tant qu'homme. Parce que vous êtes devenue tellement forte à tout gérer et à faire tout bien, qu'au bout d'un moment, il ne trouve plus sa place à côté de vous. Donc vous devez faire attention. Vous devez encourager. Les hommes sont plus fragiles que vous ne le pensez, hein. Les hommes, c'est pas des supermans, hein. Je trouve que les femmes sont des superwomen. Vraiment, les femmes sont des superwomen. Mais le problème, c'est qu'on est, on est le seul à le savoir. Mais nous portons notre croix, n'est-ce pas? Les femmes, je trouve que les femmes sont extraordinaires. Et particulièrement dans le monde dans lequel nous sommes, les femmes sont très très fortes. Elles sont capables de gérer la maison, de gérer les enfants, de gérer la scolarité, de gérer les courses, de gérer le ménage, d'aller au travail, d'avoir des responsabilités, de rentrer, d'être belles pour leur mari, d'être des femmes pour leur mari. Les femmes sont exceptionnelles. Elles sont extraordinaires. Donc, on a l'habitude d'être fortes. Que les hommes soient des hommes, laissez vos hommes être des hommes et que les femmes soient des femmes. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu ces conseils? Maintenant, je vais vous dire une dernière chose qui sera spirituelle et on va pas tarder à se quitter. Est-ce que ça va encore pour vous? Ou est-ce qu'il faut courir vite, vite, vite? Vous allez maintenant dans... Oui, ma référence, je sais que c'était Jean 20. Que de choses pratiques, n'est-ce pas? Est-ce que vous appréciez les choses pratiques? Ça vous parle? Donc, dans Jean 20. Bon, alors là, je vais vraiment faire une parenthèse, mais j'aimerais prêcher tout un message. Alors, on n'a pas le temps ce soir. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a été entouré de 12 disciples. Il les a formés, il les a enseignés. Et vous savez que ces 12 disciples étaient des hommes. Je me demande pourquoi. 12 disciples, 12 hommes. Il leur dit, il leur enseigne qu'il va mourir, qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va mourir et qu'il ressuscitera. Tout se passe exactement comme il l'a dit. Le voici que Jésus, le héros, le grand Seigneur, le grand Sauveur, ce puissant Dieu de miracles, meurt à la croix. Les disciples se retrouvent ensemble. C'est le moment de l'ensevelissement. Il y a toutes ces choses qui se passent. Et en Jean 20, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui se passe, il est écrit au verset 1, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » Et vous savez ce qui va se passer. Elle va voir, en fait, que le corps de Christ n'est plus là. Des anges vont lui parler. Ils vont lui dire, « Pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts, celui qui est vivant ?» Elle va retourner voir les disciples. Les disciples vont dire, « Mais qu'est-ce que sont ces rêveries de femmes ?»« Hello ?»« Oh, mais qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces femmes ?»« Qu'est-ce que c'est que ces causeries de femmes, ces rêveries de femmes ?» Les disciples ne vont même pas croire dans la parole de Marie de Magdala. Et Marie de Magdala revient au tombeau. Elle est là et la voici au verset 15. Elle voit Jésus, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Je crois que les femmes ont une place à jouer dans le corps de Christ qui est immense. Jésus a formé 12 hommes, mais lorsqu'il est ressuscité, il s'est révélé à une femme. Il ne s'est pas révélé à un homme. Pourtant, Jean et Pierre ont couru au tombeau. Mais c'est à une femme vers laquelle il est venu et il a dit ces paroles. Il a dit, « Va trouver mes frères et dis-leur !» Et moi, je vous rappelle, femme, votre position spirituelle. Dieu veut que vous partagiez l'évangile. Vous êtes des instruments dans la main de Dieu. N'oubliez jamais cet appel. Cet appel que Marie de Magdala a reçu, c'est le même appel que vous avez reçu. Jésus a dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères, va trouver mes sœurs, va trouver ceux qui croiront en moi et en mon nom, et dis-leur, et ce même appel demeure aujourd'hui. C'est très touchant et c'est très étonnant de voir que cet ordre a été donné à une femme. Et vous savez que Marie de Magdala a parcouru le monde en prêchant l'évangile, qu'elle est venue même dans la région de Marseille, dans le sud, le bassin du sud, tout le bassin méditerranéen, où elle a prêché l'évangile, où elle a levé les premiers chrétiens d'Europe et de France. Et donc elle a été une puissante évangéliste. Donc je ne terminerai jamais une réunion sans rappeler aux femmes leur appel, leur devoir, leur onction, qui est non seulement dans les choses pratiques, les choses de la vie courante, mais aussi un appel dans les choses spirituelles, de vous rappeler d'être levé pour Christ, d'avancer pour le Seigneur, de ne jamais cesser de dire et de proclamer que Jésus est Seigneur, qu'il est le même, qu'il ne change pas, qu'il fait de grandes choses, qu'il guérit les malades, qu'il libère les captifs, qu'il ouvre les yeux des aveugles et qu'il sauve encore aujourd'hui. Alléluia! Est-ce que je peux avoir un alléluia? Alléluia! Applaudissons le Seigneur. Amen, 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 amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.